6-9 du week-end sur France Inter.
Patricia Martin, votre invité ce matin est historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Bruno Cabanne, pour son dernier livre, Un siècle de réfugiés, Photographier l'exil, le livre paraît aux éditions du Seuil.
Oui, il est titulaire d'une chaire à Ohio State University, c'est donc aux États-Unis. Il est à Paris pour quelques jours, donc je l'ai attrapé au vol. Bonjour Bruno Cabanne.
Bonjour.
Les photos de ce livre sont le point de départ d'une réflexion et d'une mise en perspective de l'exil. On reconnaîtra là l'historien que vous êtes. Un siècle de réfugiés en augmentation constante.
Oui, puisqu'on est passé de 10 millions à peu près de réfugiés au moment de la Première Guerre mondiale. À l'heure actuelle, on doit en être à pas loin de 80 millions. Donc vous voyez, l'augmentation est absolument spectaculaire, et surtout depuis quelques années.
La photographie de l'exil, c'est la photographie de l'humanitaire qui commence à quel moment ?
Elle commence au moment des guerres balkaniques de 1912-1913, avec la perspective de documenter les crimes de guerre commis pendant cette période. Il y a des délégations qui sont envoyées par des pays occidentaux et qui sont accompagnées de photographes. Et notamment, il y a un rapport très célèbre de 1913 avec une cinquantaine de photographies. Je crois que ce sont les premières en fait qui représentent des réfugiés.
Photo témoin, reconnaissance d'autrui, tout autant que finalement geste esthétique.
Alors le geste esthétique, il vient un peu plus tard. Il vient surtout dans les années 30, au moment de la guerre civile espagnole. Et là, c'est tout à fait spectaculaire. Vous avez effectivement de très grands photographes, le plus connu étant naturellement Robert Capa, qui viennent en Espagne. Alors pas simplement pour faire de belles images, bien évidemment, mais parce qu'ils ont un engagement politique fort du côté des républicains espagnols. Et notamment, il y a un moment très particulier qui est la fin janvier 1939, au moment de la chute de Barcelone, où à la frontière entre l'Espagne et la France, au Pertus, vous avez à peu près 500 000 réfugiés. On a complètement oublié ça, mais 500 000 personnes, hommes, femmes, enfants, qui se pressent à la frontière franco-espagnole. Et face à eux, les plus grands photographes du moment, et c'est un des points de tournant, à mon avis, dans l'histoire de la photographie humanitaire, se saisissent des expressions de ces réfugiés, s'intéressent aux visages, s'intéressent finalement aux individus. Je crois que c'est vraiment un moment effectivement essentiel.
Et le reportage photographique devient un genre dominant.
Absolument, il va se développer durant tout le courant du 20e siècle, notamment après la Deuxième Guerre mondiale et puis plus tard.
Et c'est aussi peut-être pour dire, de la part des humanitaires, les responsables, enfin vous êtes partie prenante de ce qui se passe, et ce ne sont pas seulement les États-nations.
Absolument.
C'est une façon
absolument
de prendre les gens par la main. En
fait. Absolument, c'est souvent à l'initiative, alors c'est pas le cas pour Capa, hein, mais c'est à l'initiative des premières organisations non gouvernementales, avec l'idée de lever des fonds, bien évidemment, hein, lever des fonds auprès de particuliers, avec cette idée que plus encore que le texte, que la description journalistique, l'image a une force particulière qui va inciter les gens à donner de l'argent.
Et une juste distance, comment la trouver ?
Alors ça, c'est la grande question, effectivement, de tout le XXe siècle. C'est la question posée par Capa. Bon, Capa, vous le savez, c'est très connu, à cette idée qu'une bonne photo, c'est une photo qui est justement prise à la juste distance. Dans son cas, c'est aussi une juste distance morale. Il s'agit aussi de réhumaniser en quelque sorte ces individus. Moi, ce qui me frappe, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est qu'on est passé par des phases de déshumanisation complète des réfugiés. Le pire étant atteint, à mon avis, dans les années 90, avec les publicités faites par Benetton, c'est un peu le point de départ aussi de ma démarche. J'avais 25 ans à l'époque, et j'étais extrêmement connaissant bien les Balkans, j'étais extrêmement choqué par ces images dont vous vous souvenez, qui sont ces images de réfugiés albanais accrochés comme des sortes d'essaims humains à des bateaux. Je me souviens très bien de m'interroger même sur ce que je voyais, hein. Après cette période de dramatique, y compris dans le traitement par les photographes de ces questions-là, on arrive maintenant, je crois, à une réflexion de fond sur ce que doit être la photographie humanitaire et plus largement ce que doit être la photographie face à l'urgence.
C'est difficile de parler, de décrire une photo à la radio, et pourtant, si vous n'en aviez qu'une à prendre dans ce livre, ce serait laquelle, Bruno ? nos cabanes?
Oh, c'est une question extrêmement difficile.
C'est impossible.
Ouais, c'est impossible. Il y a 200 photos dans cet ouvrage.
Certaines sont des tableaux, hein, oui. Véritablement.
Oui, alors, voilà. Si vous m'orientez dans cette direction-là, je pense que je choisirais, une photographie de Sergueï Ponomarev, qui est un très grand photographe, d'origine russe, mais qui vit aux États-Unis, qui a eu le prix Pulitzer, collectivement, pour un travail qu'il a fait pour le New York Times, et dans lequel il représente, des réfugiés en Méditerranée avec une construction de l'image qui ressemble en fait au radeau de la Méduse. Ouais. C'est-à-dire qu'une construction comme une sorte de triangle, de pyramide, et des regards qui se portent un peu partout, qui sont pas des regards désespérés, qui sont pas des regards déshumanisés, qui sont au contraire, on sent des hommes en mouvement, des hommes et des femmes en mouvement.
Il y a aussi évidemment, en tout cas ce qui moi m'a particulièrement touché, c'est les photos d'enfants. Il y en a une qui est prise en décembre 1938, ce sont des enfants qui arrivent en Angleterre, un garçon, une petite fille, avec une pancarte et un numéro autour du cou. Ouais. On se dit qu'ils sont peut-être frères et sœurs et ils vont être internés.
Oui, alors ça ce sont les Kindertransport de 38-39. Les Anglais ont fait venir 10 000 enfants. Avec une forme d'ailleurs de cynisme, parce qu'on les a fait venir seuls, en leur imposant d'avoir une somme d'argent qui correspondait à la somme d'argent de leur retour éventuel. Et puis la guerre a éclaté et ils se sont retrouvés. Donc ils étaient non accompagnés et ils se sont retrouvés dans les camps d'étrangers jugés hostiles parce qu'ils étaient allemands ou autrichiens.
Il y a aussi de la joie dans certaines photos. Oui. Je pense à ce réfugié cubain qui est secouru par les gardes-côtes américains. Bon, oui. La suite est peut-être moins drôle, mais enfin
sans
bon, il y a un joli sourire.
Sans doute.
Si on devait, je pense que c'est une question qu'on peut vraiment chacun se poser, si on devait partir de chez soi comme ça en moins d'une heure, qu'est-ce qu'on emporterait ?
C'est aussi une des thématiques du livre parce que beaucoup de photographes s'intéressent aux objets que les réfugiés emportent avec eux. C'est très intéressant. Alors très souvent, ils emportent, ça je le savais pour les réfugiés de la guerre de 14, ils emportent la clé de leur maison. Ce qui est quand même un symbole incroyable, quoi. Quelle plus belle promesse d'avenir que d'emporter avec soi la clé de sa maison dont on peut imaginer qu'elle sera détruite naturellement si jamais on revient un jour chez soi. Ils emportent maintenant des médicaments, ils emportent des objets familiaux, et puis ils emportent un téléphone portable. C'est vraiment l'objet que vous retrouvez le plus dans les photographies actuelles de réfugiés. Recharger son téléphone est devenu une sorte de geste essentiel à la survie de beaucoup de ces réfugiés.
Merci Bruno Cabanne, Un siècle de réfugiés, photographier l'exil, est publié au Seuil. Merci à vous.
Merci.
Et dans 30 secondes, il sera 8 heures.